connaissance que je connais de lui, de ses écrits, en ce sens que la dimension qui a touché Israël, tant dans la catastrophe que dans la résurrection, est d'une autre nature. Ce qui est en jeu dans la société, les sociétés des nations, et ce qui est en jeu pour Israël est d'une autre nature. Et à l'échelle générale, ce sont les valeurs qui sont en jeu. Mais par rapport à Israël, c'est l'être qui est en jeu. Et c'est autre chose.
C'est toujours la différence entre Hachamim des nations et Chokhma d'Israël.
C'est parallèle. Bien. Très rapidement, parce que je dois vous laisser aller prendre votre tasse de thé. Étant déjà engagés irréversiblement, alors des rabbins ont eu cette position. Non, c'est les faits. La Shoah étant déjà bien avancée, alors, et puis dans l'aveuglement général, rappelez-vous ce qui a été décrit l'autre soir, et dans la, pas l'indifférence, mais presque l'indifférence même des juifs extérieurs aux frontières de la catastrophe, alors, les choses étant déjà dans la Xéra, il y a eu cette attitude. Et tu as dit toi-même que, tout à l'heure, a posteriori, a priori, si on avait proposé au peuple juif, voulez-vous comme capara une Shoah de ce genre, bien évidemment que tu leur avais envie de dire non. A priori, sûrement pas.
Je veux dire par là qu'il y a des faits qui méritent d'être étudiés plus sérieusement.
Mais tu vois, je suis pas sérieux.
Je ne comprends pas le dire.
Tu l'as pas dit.
Il y a des faits, en tout cas.
Mais je nie pas les faits, mais je dirais.
Il montre qu'avant la guerre, du là, l'aveuglement n'était pas général. Je cite simplement un nom que certains connaissent bien. Hillel Zeitlin est une figure extrêmement passionnante, d'ailleurs aussi. C'est un intellectuel juif polonais, élevé en tradition juive, et qui est ensuite passé par l'université, assimilé, qui fait tchouva. Il fait tchouva, et qui, à partir de 1936, je dis bien en 36, nous ne sommes plus en 43, mais en 36, écrit et publie un livre qui s'appelle De Mama au Col, dans lequel il prédit l'extermination juive. Il l'annonce. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des groupes. Il crée des groupes de gens qui parcourent toute la Pologne pour leur dire attention à ce qui va arriver. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a eu...
Mais est-ce que lui-même voulait aller au sacrifice a priori ?
Non, je n'ai pas dit ça, mais je dis attention, il y a... ça rejoint les...
Tu te rappelles, je ne sais pas si tu connais ce chant extraordinaire en yiddish, ça brûle. Et qui a été chanté bien avant. Et évident, c'est évident, mais j'en parlerai bien.
Non, je veux dire par là, si quelqu'un comme Zeitlin voit l'inanité de ses efforts et resté là-bas, et qu'en 1942, la veille de Rosh Hashanah, il est parti à Treblinka avec son talit et sur le front, il y a une cohérence, mais attention, il y avait au départ, il y avait avant, en tout cas, la connaissance, en tout cas la connaissance de la possibilité de cet événement et le fait que malgré tout, ils sont restés.
Mais tu vas tout à fait dans
ils sont restés.
Tout à fait dans le sens de ce que je dis. Tout à fait dans le sens de ce que je dis. Il n'y a absolument pas de contradiction. Si nous avions le temps, je le préciserai en détail, mais J'essaierai dans le texte écrit d'en venir.
A priori même, on peut citer deux exemples. La Gaudete Rabbanim d'Amérique en 1933, qui représente l'orthodoxie par excellence. Aujourd'hui, Moshe Feinstein en est l'un des principaux responsables. A interdit le boycott juif sur l'Allemagne. En 1935, un rabbin allemand, que je ne veux pas citer parce qu'il est encore vivant aujourd'hui, a soutenu le régime nazi dans un livre. Eh bien, un rabbin orthodoxe. Oui, mais je ne pas. Moshe Feinstein, à l'époque, n'a pas fait cette takana. Il n'a absolument pas fait cette takana.
Bon, c'est encore autre chose que tu cites.
C'est encore autre chose. C'est la même attitude.
Je vous citerai pour terminer le cas du Rav Ashlag, qui était un rabbin de Varsovie. Je parle du père, le maître. Et qui a vu cela, pour des raisons kabbalistes, qu'il a dit. Et qui a pleuré, supplié, crié, interpellé l'ensemble de ses collègues et de sa population, il avait réussi, ayant lui décidé de prendre sa famille et de partir, il est arrivé à Jaffa, après des mois et des mois et des mois de voyage épouvantable, il avait réussi à grouper plusieurs centaines de familles, les autres rabbins, et pour des raisons que j'indiquerai si c'est nécessaire, mais on comprend, ça va de soi, les autres rabbins ont interdit à ces familles de partir avec lui sous peine d'excommunication. Mais pas pour les raisons d'être prêts à un sacrifice. Hein, pour les raisons qui vont toucher l'analyse que je vais essayer de présenter lundi beaucoup plus en détail. Pour le moment, je voudrais m'en tenir sur ce point au rapport de concomitant. Mais la question qui se posait à nous, c'est: y a-t-il eu, dans ce cas, le cas de Kiddush Hashem? J'ai essayé de... Ma réponse, vous l'avez entendu, c'est oui, absolument. Et j'ai essayé de le montrer à travers les définitions que la Gemara même nous en donne. Encore un rappel supplémentaire, et le fait que la tradition juive ait pris à qu'il s'agit d'un Kiddush Hashem collectif, ça veut dire Chayav Olam Haba, et qu'il s'agit de... Bon, on va s'arrêter là pour...